Deuxième partie. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que si je tiens le compte des symptômes de notre mal, j'en trouve autant de naturels et de ceux que le ciel nous envoie, qui sont donc vraiment les siens, que de ceux qui sont la conséquence de nos dérèglements et de notre bêtise. Il me semble que même les astres considèrent que nous avons assez duré, et même au-delà des limites ordinaires. Et il m'est pénible aussi de voir que le mal le plus proche de nous, celui qui nous menace directement, ce n'est pas une dégradation dans la masse elle-même, entière et solide, mais sa désagrégation et la rupture violente de ses éléments. Voilà ce qui est le plus à craindre. Je dois dire encore ceci. C'est dans ces rêvasseries des essais que je crains le plus d'être trahi par ma mémoire. Je crains que par inadvertance, elle m'ait amené à écrire deux fois la même chose. Je déteste réviser moi-même ce que j'ai fait, je ne relis jamais qu'à contre-cœur ce que j'ai laissé échapper. Oh, je n'apporte rien ici que j'ai récemment appris. Ce sont seulement des réflexions courantes, et les ayant peut-être conçues déjà 100 fois, je crains de les avoir déjà consignées. Une redite est toujours ennuyeuse, même chez Homère. Mais elle est carrément désastreuse pour les choses qui n'ont un intérêt que superficiel et passager. Je déteste qu'on inculte de force quoi que ce soit, même s'il s'agit de choses inutiles, comme c'est le cas chez Sénèque. Et je n'aime pas l'usage de son école stoïcienne, qui consiste à répéter pour chaque matière, en long et en large, les principes et les postulats qui ont une valeur générale, et à remettre toujours en avant les arguments et raisons communes et universelles. Ma mémoire se détériore cruellement tous les jours, comme si la gorge sèche, j'avais ardé les scoops contenant le sommeil du l'été, Horace. Dieu merci, jusqu'à présent, ça ne m'a pas encore causé d'ennui, mais il faudra dorénavant que, tandis que les autres cherchent le moment et l'occasion de penser à ce qu'ils ont à dire, j'évite de mon côté toute préparation, dans la cruauté de me créer quelque obligation dont je serai ensuite dépendant. C'est que le fait d'être contraint à quelque chose m'égare, de même que celui de dépendre d'un si faible instrument que ma mémoire. Je ne lis jamais cette histoire sans en être blessé, sincèrement et personnellement. On avait accusé l'inextès de conjuration contre Alexandre. Le jour où il fut conduit devant l'armée pour y présenter sa défense, comme le voulait la coutume, il avait en tête une harangue bien tournée, dont il prononça quelques paroles en hésitant et bégayant. Comme il se trouvait de plus en plus luttant avec sa mémoire et essayant de la rassembler, le voilà assailli et tué à coups de pique par les soldats qui étaient le plus près de lui, parce qu'ils le considéraient comme coupable, son hésitation et ses silences constituant pour eux un aveu. Et comme il avait eu en prison bien assez de temps pour se préparer, ce n'était pas à leur point de vue que la mémoire lui manquait, mais que la mauvaise conscience lui bridait la langue et lui ôtait la force de parler. Voilà qui était vraiment bien raisonné de leur part. Le lieu, l'assistance, l'attente, tout cela nous trouble déjà quand il ne s'agit que de bien parler. Et que peut-on faire quand il s'agit d'un discours dont sa vie dépend? Pour ma part, le fait même d'être assujetti à ce que j'ai à dire contribue à m'en détourner. Quand je m'en remets entièrement à ma mémoire, quand j'en dépends complètement, je pèse si fort sur elle que je l'accable et qu'elle s'effraie de cette charge. Et si je m'en rapporte à elle, je ne suis plus moi-même au point de risquer de perdre contenance. Je me suis trouvé quelques jours bien en peine de cacher la servitude dans laquelle je m'étais empêtré. Je souhaite montrer, en parlant, une profonde nonchalance d'intonation et de visage, avec des mouvements fortuits, imprévus, comme s'il naissait des occasions qui se présentent. J'aime aussi beaucoup mieux ne rien dire d'important plutôt que de montrer que je suis venu après m'être préparé à bien parler, ce qui est mal vu, surtout parmi les gens de ma profession. Mais c'est une chose qui comporte bien trop d'obligations pour qu'il ne peut en tenir beaucoup. Les préparatifs laissent espérer plus qu'ils ne fournissent. On se met souvent en pourpoint un vêtement, sans mieux sauter pour cela qu'avec son manteau. Rien n'est plus contraire à qui veut plaire, dit Cicéron, que de laisser attendre beaucoup de soi. On a écrit qu'il arrivait souvent à l'orateur Curion, quand il exposait le plan de son discours en 3 ou 4 parties, ou le nombre de ses arguments et raisonnements, d'en oublier un ou d'en ajouter un ou deux de plus. J'ai toujours soigneusement évité de tomber dans ce travers, car je déteste ce genre de promesses et prescriptions, non seulement à cause de la défiance que j'éprouve à l'égard de ma mémoire, mais aussi parce que cette façon de faire tient trop de l'artifice. Bref, je me suis promis de ne plus parler désormais en un lieu officiel. Car pour ce qui est de parler en lisant ce que l'on dit, ce que l'on a écrit, outre que cela a procédé très sot, il est très avantageux pour ceux qui, par leur caractère, ont quelques dispositions pour l'action oratoire. Quant à me livrer à la merci de l'improvisation, encore moins. Elle est chez moi lourde et trouble. Elle ne saurait répondre à des nécessités soudaines et importantes. Laisse, lecteur, courir encore ce coup d'essai. Et ce troisième à ajouter fait des restes de mon portrait. J'ajoute et ne corrige pas. D'abord parce que celui qui a livré, lui, au public, son ouvrage n'en a plus le droit, me semble-t-il. Qu'il dise mieux s'il le peut, mais ailleurs, et ne vienne pas corrompre l'ouvrage qu'il a vendu. Sinon, à ces gens-là, il ne faudrait jamais rien acheter qu'après leur mort. Qu'ils y pensent bien avant de se produire en public. Mais qui les presse? Mon livre est toujours le même, sauf qu'au fur et à mesure des rééditions, je m'autorise, pour que l'acheteur ne rejette pas les mains vides, et comme ce n'est qu'une sorte de marqueterie plus ou moins jointe, de lui ajouter quelques ornements supplémentaires. Ce n'est que pour faire bon poids, et cela ne condamne pas la première forme, mais donne un prix particulier à chacune des suivantes, par de petites subtilités volontaires. De ce fait, il peut se produire quelques transpositions chronologiques. Mes récits sont mis là où il est important de les faire, et non forcément en fonction de leur date. Je ne corrige pas non plus pour une deuxième raison. À mon point de vue, je craindrais de perdre au change. Mon esprit ne va pas toujours de l'avant, il va aussi à reculons. Je ne me méfie pas moins des idées qui m'arrivent en deuxième ou troisième lieu que de celles qui me viennent en premier. De même, je me méfie pas moins des présentes que des anciennes. Nous nous corrigeons aussi sottement, bien souvent, que nous corrigeons les autres. J'ai vieilli de pas mal d'années depuis mes premières publications en 1580. Mais je doute fort que je me sois assagi d'un pouce. Moi, à ce moment-là, et moi maintenant, cela fait deux. Lequel est le meilleur? Je ne puis pas le dire. Ce serait bien de devenir vieux, si nous ne marchions que vers l'amélioration. Mais c'est une démarche d'ivrogne, titubant, pris de vertige, erratique, ou encore des joncs que le vent fait aller à son gré. Antiochus avait écrit vigoureusement en faveur de l'Académie. Sur ses vieux jours, il prit un autre parti. Et que je suive l'un ou l'autre, n'est-ce pas toujours suivre Antiochus? Après avoir introduit le doute, vouloir établir la certitude des opinions humaines, n'était-ce pas établir le doute plutôt que la certitude? Et montrer que si on lui avait donné encore des années à vivre, il eût encore pu modifier son jugement, et pas forcément mieux. La faveur du public m'a donné un peu plus de hardiesse que je ne l'espérais. Mais ce que je crains le plus, c'est de lasser. J'aimerais mieux agacer qu'ennuyer, comme l'a fait un savant de mon temps. La louange est toujours agréable, peu importe de qui elle vient ou ce qui la provoque. Mais pour s'en réjouir à juste titre, il faut donc s'informer de ses causes. Les imperfections elles-mêmes savent se mettre en valeur. L'appréciation courante et populaire est rarement heureuse dans ses choix. Et de nos jours, où je me trompe fort, où les pires écrits sont justement ceux qui ont eu la faveur du public. Certes, je rends grâce à des gens distingués qui daignent prendre bonne part mes faibles efforts. Il n'est pas d'endroit où les malfaçons apparaissent plus que dans une matière qui ne peut se recommander que d'elle-même. Ne t'en prends pas, moi, lecteur, pour celle qui se glisse ici du fait de la fantaisie ou de l'inattention des autres. Chaque main, chaque ouvrier y apporte la sienne. Je ne me soucie pas de l'orthographe. Je veux seulement qu'on suive l'ancienne, ni de la ponctuation, car je suis peu expert en l'un comme en l'autre. Pas quand il brise vraiment trop le sens, cela ne me cause guère de soucis, car au moins cela me disculpe. Mais quand ils le faussent comme si souvent et le détournent à leur façon, ils ruinent mon ouvrage. Quand une pensée ne me correspond pas, un homme sensé doit refuser de la considérer comme mienne. Qui sait combien je suis peu laborieux, combien mes façons de faire sont particulières, me croira facilement si je dis que je dicterai de nouveau et volontiers encore autant d'essais plutôt que de m'astreindre à relire ceci pour faire quelques puériles corrections. Je disais donc tout à l'heure qu'étant installé dans le filon le plus profond du métal de ce nouvel âge, non seulement je suis privé de la familiarité avec les gens qui ont d'autres mœurs et d'autres opinions que les miennes, ce nœud qui les enserre et qui tient tous les autres. Mais je ne suis pas non plus sans courir de risques parmi ceux à qui tout est également possible, qui pour la plupart ne peuvent plus désormais aggraver leur cas au regard de notre justice. C'est de là que vient l'extrême laisser-aller de leurs mœurs. En comptant toutes les circonstances particulières qui me concernent, je ne trouve personne chez les nôtres à qui la défense des lois coûte plus qu'à moi, en manque à gagner et en perte subie, comme disent les clercs. Et il ne manque pas de gens qui font les braves avec fureur et acharnement, et qui, tout bien pesé, en font pourtant moins que moi. Ma maison de tout temps a été ouverte et facile d'accès, accueillante pour tous. Je ne me suis jamais laissé influencer pour en faire une machine de guerre. Guerre à laquelle je prends part plus volontiers quand elle se déroule loin de chez moi. Elle a donc mérité une certaine affection dans le voisinage. Et il serait bien difficile de me chercher querelle chez moi. Je considère comme une réussite merveilleuse et exemplaire le fait qu'elle soit encore vierge de sang et de pillage, par un si long orage et tant de changements et d'agitation dans le voisinage. Car en fait, il est possible à un homme de mon caractère d'échapper à une menace constante et continue, quelle qu'elle fût. Mais les invasions et incursions aux ennemis, les alternatives et les vicissitudes du destin autour de moi, ont jusqu'à présent plus exaspéré que calmé l'humeur des gens dans le pays. Et cela me cause un supplément de dangers et de difficultés insurmontables. J'y échappe, mais il me déplaît que ce soit plus par chance, voire par prudence, que par justice. Et il me déplaît d'être en dehors de la protection des lois, sous une autre sauvegarde que la leur. Étant donné le cours des choses, je dois la vie plus qu'à demi à la faveur d'autrui, ce qui m'est une lourde obligation. Je ne veux devoir ma sécurité ni à la bonté ni à la bénévolence des puissants, qui se félicitent de mon respect des lois et de ma liberté, pas plus qu'à la douceur de caractère de mes prédécesseurs et de moi-même. Car si j'étais différent, qu'en serait-il? Si mon comportement et la franchise de mes rapports avec les gens font que mes voisins et ma parenté ont des obligations à mon égard, il est cruel qu'ils puissent s'en acquitter en me laissant vivre, et qu'ils puissent dire « Bon, nous lui accordons la libre continuation du service divin dans la chapelle de sa maison, puisque toutes les églises des environs sont désertées à cause de nous, Oh, nous l'autorisons à disposer de ses biens et de sa vie, comme il protège nos femmes et nos bœufs de son côté en cas de besoin. Il y a longtemps que chez moi nous méritons une part de la louange que l'on décernait à Lycurgue l'Athénien, dépositaire et gardien des biens de ses concitoyens. Or, je pense qu'il faut vivre selon le droit et l'autorité, et non en vertu des récompenses et des faveurs. Combien d'hommes d'honneur ont mieux aimé perdre la vie qu'en être redevables? Je fuis la soumission à quelque sorte d'obligation que ce soit, mais surtout à celle qui m'attache par devoir d'honneur. Rien ne me coûte plus que ce qui m'est donné, et ce par quoi ma volonté se trouve hypothéquée par le risque d'ingratitude. J'accepte plus volontiers les services quand ils sont à vendre, car il ne s'agit alors que d'argent. Tandis que pour les autres, c'est moi-même que je donne. Le nœud qui m'attache du fait de l'honnêteté me semble bien plus serré et plus cruel que celui de la contrainte légale. Je me sens bien moins étranglé par un notaire que par moi-même. N'est-il pas normal que ma conscience soit bien plus engagée pour les choses à propos desquelles on lui a simplement fait confiance? Pour le reste, ma bonne foi n'est redevable de rien, puisqu'on ne lui a rien prêté, que l'on me compte alors que sur la confiance et l'assurance prises en dehors de moi. J'aimerais bien mieux briser la prison faite d'une muraille et des lois que celle où m'enferme ma parole. Je suis pointilleux quant au respect de mes promesses, jusqu'à la superstition, et sur tous les sujets, je les fais volontiers incertaines et assorties de conditions. À celles qui n'ont que peu d'importance, j'attribue l'importance du soin jaloux que je porte à ma règle. Elle me tourmente et me charge de ses propres contraintes. Car même dans mes entreprises libres, celles qui ne dépendent que de moi, si j'en dévoile l'objet, je considère que je le prescris, et que le faire connaître à autrui, c'est de l'imposer à soi-même d'avance. Il me semble que je le promets simplement en le disant. C'est pourquoi je dévoile peu mes projets. Le jugement que je porte sur moi-même est plus vif et sévère que n'est celui des juges, qui ne me considèrent que sous l'angle de l'obligation commune. Ma conscience m'étreint de façon plus étroite et plus sévère. J'observe mollement des devoirs auxquels on m'entraînerait si je n'y allais de moi-même. Seul un acte volontaire peut être juste, dit Cicéron. Si l'action n'a pas la splendeur de la liberté, elle est sans grâce et ne mérite pas les honneurs. Quand la nécessité m'y contraint, j'aime relâcher ma volonté. Car dans ce qui est imposé d'autorité, on est bien mieux disposé à l'égard de celui qui commande qu'envers celui qui obéit. Valère Maxime. J'en connais qui suivent ce principe jusqu'à la justice. Ils donnent plutôt qu'ils ne rendent, prêtent plutôt qu'ils ne payent, et font plus parcimonieusement le bien envers ceux-là à qui ils ont justement tenu de le faire. Je ne vais pas jusque-là, mais je m'en rapproche. J'aime tellement me décharger et me désengager que j'ai parfois considéré comme un avantage les ingratitudes, offenses et méchancetés que j'avais subies de la part de ceux envers qui, naturellement ou par hasard, j'avais quelques devoirs d'amitié. Je prenais le prétexte de leur faute pour autant d'acquis en écharge de ma dette. Mais si je continue cependant à les payer de retour en apparence, parce que la société me l'impose. Je trouve un grand soulagement à ne plus faire que par justice ce que je faisais par affection, et me soulager ainsi un peu intérieurement de l'attention et de la préoccupation de ma volonté. Cette volonté, chez moi, quand je m'adonne à quelque chose, est trop exigeante et trop pressée, au moins pour un homme qui ne veut aucunement être bousculé. Et cette façon de ménager ma volonté me fournit quelques consolations pour les désagréments que me causent mes proches. Je suis bien désolé qu'ils ne varient pas pour moi, mais au moins je m'épargne un peu d'application et d'attachement envers eux. Je comprends celui qui aime moins son enfant parce qu'il est teigneux ou bossu. Non seulement quand il est méchant, mais aussi quand il est malheureux ou peu doué. Puisque Dieu lui-même en a un peu rabattu dans ce cas sur sa valeur naturelle. Mais alors, même si on fait preuve de froideur, il faut se comporter avec modération et souci de justice. Chez moi, la proximité n'allège pas les défauts, elle les aggraverait plutôt. Après tout, dans la mesure où je m'y entends en science du bienfait et de la reconnaissance, qui est une science, subtile et de grande utilité, je ne vois personne qui soit plus libre et moins endetté que moi jusqu'ici. Ce que je le dois simplement aux obligations ordinaires et naturelles. Il n'est personne qui soit plus nettement quitte par ailleurs. Les princes me donnent beaucoup s'ils ne m'enlèvent rien. Ils me font assez de bien quand ils ne me font pas de mal. C'est tout ce que je leur demande. Oh, que je suis reconnaissant à Dieu, qu'il lui ait plu que je reçoive tout de suite de sa grâce tout ce que j'ai, et qu'il ait gardé pour lui tout ce que je lui dois. Et comme je supplie instamment sa sainte miséricorde de faire que je ne doive jamais une profonde reconnaissance à personne. Voilà une bienheureuse liberté, mais quand on m'a conduit fort loin dans ma vie, qu'elle aille jusqu'au bout. Je m'efforce de n'avoir vraiment besoin de personne. En moi, toute mon espérance, Terence. C'est quelque chose que chacun peut faire, mais c'est plus facile pour ce que Dieu a mis à l'abri des nécessités naturelles et urgentes. Il est pitoyable et risqué de dépendre d'un autre. Nous sommes nous-mêmes notre objectif le plus sûr et le plus juste, et nous ne sommes pourtant pas encore assez sûrs de nous. Je ne possède rien que moi-même, et même là, ma possession est incomplète et en partie empruntée. Je cultive mon courage, ce qui est le plus important, mais aussi mes moyens de vivre, pour avoir de quoi me satisfaire si toute chose par ailleurs m'abandonnait. Hippias Delis n'avait pas seulement acquis du savoir pour pouvoir se passer agréablement de toute autre compagnie et vivre dans le giron des muses, s'il le fallait. Il n'avait pas seulement étudié la philosophie pour enseigner à son âme de se contenter d'elle-même et de passer courageusement aux désagréments extérieurs quand le destin l'impose. Il voulut encore apprendre à faire la cuisine, se tailler la barbe, faire ses vêtements, ses chaussures, ses menus objets, pour ne compter que sur lui-même autant que possible, et se passer du secours des autres. On profite bien plus librement et plus agréablement des biens empruntés quand on n'y est pas contraint par la nécessité et que l'on dispose des moyens de s'en passer. Je me connais bien, mais j'ai de la peine à imaginer que quelqu'un puisse faire preuve à mon égard d'une libéralité ou d'une hospitalité si pure, si franche et désintéressée soit-elle, sans que cela me paraisse pénible, tyrannique et teinté de reproche si j'y étais amené par la nécessité. De même que donner est une façon d'attirer, de s'arroger des prérogatives, accepter est une façon de se soumettre. C'est ce dont témoigne le refus injurieux et agressif de Bajazet envers les présents que Témir lui avait envoyés. De même, ce qu'on offrit de la part de Soliman à l'empereur de Calicut lui causèrent un si grand dépit que non seulement il les refusa brutalement, disant que ni lui ni ses prédécesseurs n'avaient jamais eu l'habitude de rien recevoir et que leur rôle consistait au contraire à donner, mais il fit jeter en un cul-de-sac basse-fosse les ambassadeurs envoyés à cette occasion. Quand Thétis flatte Jupiter, dit Aristote, ou quand les Lacédémoniens flattent les Athéniens, ils ne leur rappellent pas ce qu'ils ont fait de bien pour eux, ce qui leur serait odieux, mais les bienfaits qu'ils ont reçus d'eux. Ce que je vois couramment requérir les services de n'importe qui et du même coup s'engager envers lui, ne le ferait certainement pas s'ils connaissaient comme moi la douceur d'une pleine liberté, et s'il leur pesait, autant que cela doit peser à un homme de bien, la contrainte d'être l'obligé de quelqu'un. Cette obligation est parfois payée, mais elle n'est jamais effacée. C'est un cruel collier pour qui aime avoir les coudées franches dans tous les sens. Ceux qui me connaissent, qu'ils soient au-dessus ou au-dessous de moi, savent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de moins solliciteur, quémandeur et suppliant que moi, ni plus soucieux de ne pas être à la charge d'autrui. Si je suis ainsi, au-delà de tout exemple à notre époque, ce n'est pas très étonnant, car de nombreux aspects de mon caractère y contribuent. Une certaine fierté naturelle, le déplaisir à l'idée d'un refus, la modestie de mes besoins et de mes projets, l'inaptitude à toutes sortes d'affaires, sans parler de mes prédispositions favorites à l'oisiveté et à la franchise. À cause de tout cela, j'ai conçu une haine mortelle pour les obligations envers les autres ou celles des autres envers moi. Je m'emploie le plus que je peux à me passer de l'aide des autres, dans quelques circonstances que ce soit anodines ou importantes. Mes ennemis m'ennuient énormément quand ils me pressent de faire appel à un tiers. Et il me semble guère moins gênant de désengager celui qui me doit quelque chose en employant ses services que de m'engager envers quelqu'un qui ne me doit rien. Cette condition mise à part, et cette autre quand même, qu'on ne veuille obtenir de moi quelque chose qui me cause de la peine et du souci, car je fais une guerre à mort à tout souci, je suis facilement disponible pour les besoins de chacun. Mais j'ai encore plus cherché à ne pas recevoir qu'à ne pas donner, ce qui est bien plus facile si l'on en croit Aristote. Ma destinée ne m'a guère permis de faire du bien à autrui, et ce peu qu'elle a permis, elle l'a dévolu à des gens de peu d'importance. Si elle m'avait fait naître pour tenir un rang entre les hommes, j'aurais caressé l'ambition de me faire aimer, non de me faire craindre ou admirer. Le dirais-je plus crûment, mais j'aurais cherché autant à plaire qu'à profiter. Cyrus, très sagement et par la bouche d'un très bon chef militaire et meilleur philosophe encore, estime sa bonté, ses bienfaits loin au-delà de sa valeur et de ses conquêtes militaires. Le premier des Scipions, lui, partout où il voulait se faire valoir, plaçait son humanité, sa bienveillance au-dessus de sa hardiesse et de ses victoires. Il avait toujours à la bouche ce mot devenu célèbre, disant qu'il avait laissé à ses ennemis autant de raisons de l'aimer qu'à ses amis. Je veux donc dire que s'il faut être redevable de quelque chose, ce doit être de quelque chose de plus légitime que ce dont j'ai parlé jusqu'ici, et ce à quoi m'a astreint cette malheureuse guerre, et non pas pour une dette aussi grosse que celle de me conserver en vie. Cette dette-là m'accable. Je me suis couché 1000 fois chez moi, pensant qu'on allait me trahir ou m'assommer cette nuit-là, m'arrangeant d'avance avec mon destin pour que ce fût sans effroi et vite. Et je me suis écrié après mon patenôtre, pour un soldat impie, ces terres soigneusement cultivées, Virgile. Quel remède alors? C'est le lieu de ma jeunesse, naissance et de la plupart de mes ancêtres. Il y a mis leur affection et leur nom. Nous nous endurcissons en nous accoutumant. Et dans une situation misérable comme la nôtre, cet accoutumant, c'est un véritable présent que nous a fait la nature, car elle endort notre sensibilité et nous permet de supporter toutes sortes de maux. Les guerres civiles ont cela de pire que les autres guerres, c'est de nous placer en sentinelle chacun dans notre propre maison. Comme il est triste d'avoir besoin d'une porte et d'un mur pour protéger sa vie sans être sûr de la solidité de sa demeure. Un vide. C'est un malheur extrême que d'être harcelé jusque dans son ménage et son repos à la maison. Le lieu où je me tiens est toujours le premier. Et le dernier à être soumis à l'assaut lors de nos troubles. Et la peine n'y a jamais son vrai visage. Même pendant la paix, la guerre nous fait trembler. Quand le destin brise la paix, les guerres arrivent. Tu aurais mieux fait, destin, de me donner des demeures errantes dans les pays de l'aurore ou de l'ours glacé, Ovide et Lucain. Je tire parfois de la nonchalance et de la mollesse le moyen de me raffermir contre ces considérations. Elles nous conduisent aussi un peu à la fermeté. Il m'arrive souvent d'imaginer les dangers mortels et de les attendre avec un certain plaisir. Je plonge tête baissée, stupidement, vers la mort, sans la voir ni la reconnaître, comme dans une profondeur muette et obscure, qui m'engloutit d'un coup et me plonge en un instant dans un sommeil de plomb, sans la moindre sensation ni souffrance. Et ces morts courantes et violentes, par ce qu'elles me font entrevoir, me consolent plus que la réalité ne me trouble. Puisque la vie, pour être longue, n'est pas la meilleure, alors la mort est la meilleure, puisqu'elle est courte, à ce qu'on dit. Je ne me sens pas aussi étranger de l'état de mort que je me sens proche et en confiance avec le fait de mourir. Je m'enveloppe et me cache en cet orage qui viendra un jour me ravir dans sa furie par une attaque soudaine que je ne sentirai même pas. Si, comme le disent certains jardiniers, les roses et les violettes sont plus parfumées près des eaux et des oignons, parce que ceux-ci sucent et tirent à eux les mauvaises odeurs de la terre, peut-être que le voisinage des natures dépravées qui m'entourent pourrait aspirer tout le venin de mon air et le climat d'ici, et de ce fait me rendrait meilleur et plus pur. Alors, au moins, je ne perdrai pas tout. Il n'en est rien. Mais il se peut tout de même que j'en tire quelque chose. La bonté est plus belle et plus attirante quand elle est rare. La contrariété et la diversité renforcent et roidissent la volonté de bien faire. Elles l'enflamment par le biais de la jalousie et de l'opposition, ou encore par la gloire que cela procure. Les voleurs ne m'en veulent pas particulièrement de leur propre chef. N'en est-il pas de même pour moi à leur égard? Il me faudrait m'en prendre à trop de monde. Des esprits semblables peuvent se trouver sous des costumes divers. Même cruauté, même déloyauté, même grivellerie, vices d'autant plus graves qu'ils sont plus lâches, plus sûrs et plus obscurs sous le couvert des lois. Je déteste moins la justice quand elle est affichée que dissimulée, guerrière que pacifique et juridique. Notre fièvre de guerre civile est survenue en un corps dont l'état n'a pas beaucoup empiré. Le feu y couvait déjà, la flamme y a pris. Le bruit en est plus grand, mais le mal ne l'est guère. Je réponds d'ordinaire à ceux qui me demandent les raisons de mes voyages. Je sais bien ce que je fais, mais ce que je cherche. Et si on me dit qu'à l'étranger, la santé des gens n'est pas meilleure et que leurs mœurs ne valent pas mieux que les nôtres, je réponds d'abord qu'il est malaisé de faire pire, tant les crimes ont des forces diverses, et deuxièmement que c'est toujours quelque chose de gagné que de passer d'un état mauvais à un état incertain, et que les malheurs des autres ne doivent pas nous atteindre autant que les nôtres. Je ne veux pas oublier ceci. J'ai beau me rebeller contre la France, je vois toujours Paris d'un bon œil. Cette ville a conquis mon cœur dès mon enfance. Et il s'est passé avec elle ce qui se passe avec les choses les meilleures. Plus j'ai eu l'occasion, ensuite, de voir d'autres belles villes, et plus s'est développée mon affection pour la beauté de celle-ci. Je l'aime par elle-même, plus parce qu'elle est tout, simplement, que renforcée d'apparat les étrangers. Je l'aime tendrement. J'aime jusqu'à ses verrues et ses taches. Je ne suis français que par cette grande cité. Elle est grande par ses habitants, par sa situation exceptionnelle, mais surtout grande et incomparable par la variété et la diversité de ses agréments. C'est la gloire de la France et l'un des plus nobles ornements du monde. Puisse Dieu chasser loin d'elle nos divisions. Si elle est entière et unie, elle est à l'abri de toute autre violence. Je le déclare ici, de tous les partis, le pire sera celui qui mettra chez elle la discorde. Je le crains pour elle qu'elle-même, même si je crains autant pour elle, certes, que pour toutes les autres parties de cet État. Tant que Paris durera, je ne manquerai pas à la retraite ou prendre mon dernier souffle. Et elle suffit à m'ôter le regret de toute autre retraite. Ce n'est pas parce que Socrate l'a dit, mais parce que c'est vraiment mon idée, en exagérant peut-être un peu. Je considère tous les hommes comme mes compatriotes, et j'embrasse un Polonais tout comme un Français, car je place le lien national après le lien universel, celui qui est commun à tous les hommes. Je ne suis pas vraiment frappé par la douceur de l'air de mon pays natal. Les connaissances que j'ai pu faire par moi-même me semblent bien valoir les autres, celles qui sont dues au hasard du voisinage. Les amis qui ont vraiment de notre fait l'emportent généralement sur ceux auxquels la communauté de climat ou le sang nous a liés. La nature nous a mis au monde libre et sans entrave, et nous nous emprisonnons dans des régions, comme les rois de Perse, qui s'obligeaient à ne boire que de l'eau du fleuve Cospès, renonçaient aussi bêtement à leur droit d'utiliser toutes les eaux et asséchaient tout ce qui était pour eux le reste du monde. Je crois que je ne serai jamais cassé par l'âge ou étroitement lié à mon pays au point de faire comme Socrate, qui vers sa fin considéra qu'une sentence d'exil était pour lui pire qu'une semence de mort. Des vies idéales comme celles-là ont bien des aspects qui font que je les estime plus que je ne les affectionne. Elles en ont aussi qui sont tellement élevées et extraordinaires que même avec l'estime que j'ai pour elles, je ne puis les embrasser car je ne parviens pas à les concevoir. Voilà une attitude bien légère chez cet homme qui considérait pourtant le monde comme étant sa ville. Il est vrai qu'il n'avait pas à se déplacer et n'avait guère mis le pied hors de l'Attique. Mais déplorer que ses amis puissent dépenser de l'argent pour le faire libérer et refuser de sortir de prison par l'entremise d'autrui pour ne pas désobéir aux lois de son pays, à une époque où ils étaient pourtant si corrompus, voilà pour moi des exemples de première importance. Je pourrais en trouver d'autres de moindre importance chez le même personnage. Si beaucoup de ces exemples rares sont au-dessus de mes forces, aucun n'est hors de portée de mon jugement. Outre ces raisons-là, voyager me semble un exercice profitable. L'esprit trouve une excitation continuelle en remarquant des choses inconnues et nouvelles. Et je ne connais pas de meilleure école, comme je l'ai souvent dit, pour façonner sa vie, que de lui montrer sans cesse la diversité de tant d'autres vies, opinions et usages, et de lui faire goûter la permanente variété des formes de notre nature. Le corps n'est ni oisif ni harassé. Cette agitation modérée le tient en haleine. Je me tiens à cheval sans descendre, tout coliqueux que je sois, 8 ou 10 heures d'affilée, sans m'ennuyer. Aucune saison ne m'est ennemie, si ce n'est la chaleur brûlante d'un soleil de plomb. Car les ombrelles dont l'Italie se sert depuis la Rome antique charge plus les bras qu'elle ne soulage la tête. Je voudrais bien savoir comment faisaient les Perses il y a si longtemps, quand apparut le luxe pour se faire du vent frais et des ombrages à leur guise, comme le dit Xénophon. J'aime la pluie et la boue autant que les canards. Le changement d'air et de climat ne me gêne pas. Tous les ciels me conviennent. Je ne suis gêné que par les troubles internes dont je suis moi-même la cause, et cela m'arrive moins en voyageant. Je me suis difficile à mettre en mouvement, mais une fois mis en route, je vais autant qu'on veut. Je suis aussi hésitant pour les petites entreprises que pour les grandes. À m'équiper pour un voyage d'une journée et rendre visite à un voisin, autant que pour un vrai voyage. J'ai appris à faire mes étapes à la façon espagnole, d'une traite, de grandes et raisonnables étapes que, dans les très grandes chaleurs, je fais de nuit, du soleil couchant jusqu'au lever du jour. L'autre façon, qui consiste à se restaurer en chemin pour se mettre à table dans la hâte et la confusion, surtout dans les jours courts et peu commodes. Mes chevaux ne s'en portent que mieux. Aucun de ceux qui ont su faire avec moi la première étape ne m'ont ensuite failli. Je les abreuve partout et veille seulement ce qu'il leur reste encore assez de chemin à faire pour ne pas arriver la panse pleine. La paresse dont je fais preuve à mon lever laisse à ceux qui me suivent le temps de déjeuner à leur aise avant de partir. Quant à moi, je ne mange jamais trop tard. L'appétit me vient seulement en mangeant et je ne ressens la faim que quand je suis à table. Certains se plaignent de ce que j'ai continué à me déplacer, ainsi même marié et âgé. Ils ont tort. Il vaut mieux abandonner sa maisonnée quand on fait en sorte qu'elle puisse continuer sans nous, quand on y a laissé des ordres qui ne viendront pas déranger le cours ancien des choses. Il est bien plus risqué de s'éloigner en laissant sa maison à la garde de quelqu'un de moins fidèle et moins préoccupé de veiller sur vos besoins. La science la plus honorable, l'occupation la plus utile pour une mère de famille, c'est celle de l'administration de la maison. J'en connais quelques-unes qui sont avares, mais tiennent bien leur ménage, fort peu. C'est pourquoi la qualité maîtresse pour elles, celle qu'on doit rechercher avant tout autre, comme la seule dot capable de sauver ou de ruiner une maison. Inutile de m'en parler, l'expérience me l'a appris et je demande à une femme mariée, au-dessus de toute autre vertu, la vertu de bien veiller sur la marge de sa maison. Je donne à ma femme l'occasion de montrer ses qualités en ce domaine, lui laissant pendant mon absence toute l'affaire en main. Je vois avec irritation dans bien des ménages monsieur revenir maussade et soucieux de tout regard que lui causent ses affaires vers midi, alors que madame est encore en train de se coiffer et s'habiller dans sa chambre. Cela passe pour les reines, et encore. Il est ridicule et injuste que l'oisiveté de nos femmes soit entretenue par notre travail à la sueur de notre front. Si cela ne dépend que de moi, personne n'aura un usage plus libre, plus souple, plus calme et plus désintéressé de mes biens que celui que j'en fais moi-même. Si le mari fournit la matière, la nature veut que les femmes y mettent de l'ordre. Quant aux devoirs de l'amitié maritale, dont on pense qu'ils sont lésés par cette absence, je ne le crois pas. Au contraire, c'est là une intelligence qui se refroidit volontiers par une assistance trop soutenue, et l'assiduité lui est nocive. Toute femme qui n'est pas la nôtre nous semble une honnête femme. Et chacun sent par expérience que le fait de se voir constamment ne peut procurer le plaisir que l'on éprouve à se quitter, à se retrouver par intervalles. Ces interruptions me remplissent d'un amour renouvelé envers les miens et me font retrouver la douceur d'être à la maison. L'alternance renforce mon désir envers l'un et l'autre des situations. Je sais que l'amitié a les bras assez longs pour qu'on se tienne et se rejoigne d'un bout du monde à l'autre, et spécialement dans ce cas où il y a un continuel échange de services qui en maintient éveillé l'obligation et le souvenir. Les stoïciens disent fort bien, quand ils prétendent qu'il y a une si grande entente entre les sages, que celui qui dîne en France régale son compagnon qui est en Égypte, et que si l'un d'eux s'étend simplement le doigt ou quoi que ce soit, il fait ressentir son aide à tous les autres qui vivent par la terre habitable. La jouissance et la possession sont surtout le fait de l'imagination. Elle embrasse plus étroitement et plus constamment ce qu'elle recherche que ce qu'elle nous avons sous la main. Observez vos occupations journalières. Vous verrez que vous pensez moins à votre ami quand il est près de vous. Sa présence relâche votre attention et donne à votre pensée la liberté de s'échapper à tout moment, en toute occasion. De Rome, loin de chez moi, je tiens et régente ma maison, les biens que j'y ai laissés. Je vois s'élever mes murailles, mes arbres et mes rentes, et aussi décroître à deux doigts près, comme j'y suis. Devant mes yeux flotte ma maison, l'image de ces lieux, Ovide. Si nous ne jouissons que de ce que nous touchons du doigt, adieu nos écus, quand ils sont dans nos coffres. Adieu nos enfants, s'ils sont dans la chasse. Nous les voulons plus près de nous. Au jardin, est-ce loin, à une demi-journée? Et dix lieues, est-ce près ou loin? Si c'est près, qu'en est-il de 11, 12 ou 13? Et ainsi, pas à pas. Vraiment, si une épouse veut prescrire à son mari à partir de combien de pas finit le près et commence le loin, je crois qu'il vaut mieux qu'elle s'arrête entre les deux. Mettons, dit Horace, par un chiffre un terme à ces débats. Sinon, avec votre permission, j'enlèverai un, puis encore un, comme si j'arrachais des crins à la queue d'un cheval jusqu'au dernier, et que mon solite vous éberner. Que les femmes appellent hardiment la philosophie à leur secours. Comment reprocher en effet à une femme de ne pas être sûre de ce qui est le milieu de quelque chose, puisqu'elle ne voit ni l'un ni l'autre bout de ce qui rejoint le trop et le passé, le long et le court, le léger et le pesant, le près et le loin, et qu'elle ne reconnaît ni le début ni la fin. Les femmes ne sont-elles pas aussi les femmes et les amies des trépassés, ceux qui ne sont pas au bout de ce monde-ci, mais de l'autre? Nous sommes attachés à ceux qui ont été et à ceux qui ne sont pas encore, et pas seulement aux absents. Nous n'avons pas en nous, mariant un passé et un marché qui nous contraignent à nous tenir continuellement accolés l'un à l'autre, comme le sont certains petits animaux, comme les ensorcelés de Carinthy, à la façon des chiens. Et une femme ne peut pas avoir les yeux si avidement fixés sur le devant de son mari qu'elle ne puisse le voir par derrière, si besoin est. N'est-ce pas l'occasion d'évoquer ici ce qu'en dit cet excellent peintre de leur caractère à propos de leur plainte? Thérence, si tu tardes à rentrer, ton épouse s'imagine que tu fais l'amour ou qu'on te le fait, et que tu bois cédant à tes caprices quand elle est à la peine. Mais peut-être est-ce l'opposition à la contradiction qui par elle-même leur plaise et les nourrisse, et qu'elles s'accommodent assez bien de ce qui vous accommode. Dans la véritable amitié dans laquelle je suis expert, je me donne à mon ami plus que je ne l'attire vers moi. Je n'aime pas seulement mieux lui faire du bien que d'en recevoir de sa part, mais encore qu'il veuille du bien pour lui plutôt qu'à moi. S'il s'en fait, alors c'est là qu'il m'en fait le plus, à moi aussi. Si son absence lui est agréable ou utile, alors elle m'est bien plus douce que sa présence. Et ce n'est pas vraiment de l'absence quand il existe un moyen de se donner des nouvelles. J'ai tiré autrefois utilité et avantage de notre éloignement. Notre vie était mieux remplie et nous étendions notre pouvoir sur elle en nous séparant. Il vivait, voyait, profitait des choses pour moi et moi pour lui aussi pleinement que s'il eût été là. Quand nous étions ensemble, une partie de nous deux demeurait oisive puisque nous étions comme confondus. La séparation des lieux a rendu plus riche la conjonction de nos volontés. Une faim insatiable de présence physique est un peu la preuve d'une faiblesse dans la jouissance spirituelle. Quant à mon âge que l'on m'invoque, au contraire, je pense que c'est à la jeunesse de se soumettre aux opinions communes et à faire des efforts envers les autres. Elle peut le faire à la fois pour les gens et pour elle-même. Nous autres, nous n'avons que trop à faire à nous occuper de nous. À mesure que les agréments naturels nous font défaut, il nous faut avoir recours à des artifices. Il n'est pas juste d'excuser la jeunesse de suivre ses plaisirs et de défendre la vieillesse d'en chercher. Jeune, je dissimulais mes passions en jouets sous la sagesse. Et vieux, j'éloigne les pensées tristes par les distractions. D'ailleurs, les lois de Platon prohibaient les voyages avant 40 ou 50 ans pour qu'ils soient plus utiles et plus instructifs. Mais j'accepterais plus volontiers le second article de ces lois qui interdit de voyager après 60 ans. Mais à un âge pareil, vous ne reviendrez jamais d'un aussi long voyage. Mais que m'importe? Je ne l'entreprends ni pour en revenir, ni pour le faire jusqu'au bout. Je me mets en route simplement parce que j'en ai envie, et je me promène pour me promener. Ceux qui courent après une sinécure ou un lièvre ne courent pas. Ce sont ceux qui jouent au bar et ceux qui s'entraînent à la course, qui courent vraiment, eux. Mon projet de voyage peut être découpé n'importe comment. Il n'est pas fondé sur de grandes espérances et chaque étape en constitue le bout. Le voyage de ma vie se conduit de la même façon. J'ai vu pourtant bien des lieux éloignés où j'aurais désiré que l'on me retienne. Et pourquoi pas, si Chrysippe, Cléante, Diogène, Zénon, Antipater, tant de sages de l'école philosophique la plus refermée sur elle-même, ont bien abandonné leur pays sans avoir à s'en plaindre, et simplement pour le plaisir de changer d'air. Certes, le plus grand des plaisirs de mes pérégrinations, c'est de pouvoir y prendre la décision d'établir une demeure où je me plairai, et qu'il me faille toujours envisager de revenir pour me conformer aux sentiments de tous. Si je craignais de mourir ailleurs que dans le lieu de ma naissance, et si je pensais mourir moins à mon aise étant éloigné des miens, mais c'est à peine si je sortirais de France, et je ne sortirais même pas sans effroi de ma paroisse, car je sens la mort qui me prend continuellement à la gorge et aux reins. Mais je suis autrement fait. La mort est la même partout pour moi. Si toutefois j'avais à choisir, je préférerais, je crois, que ce soit à cheval plutôt que dans un lit, hors de chez moi et loin des miens. C'est plus un crève-cœur qu'une consolation de prendre congé de ses amis. J'oublie volontiers ce devoir de nos usages, car des charges de l'amitié, celle-là est la seule qui soit déplaisante, et de ce fait, j'oublierais volontiers de dire ce grand et éternel adieu. S'il y a quelque avantage à être ainsi entouré dans ces moments-là, les inconvénients y sont encore plus nombreux. J'ai vu bien des mourants pitoyablement assiégés par un tel rassemblement, étouffés par ce défilé. On dirait que se sont comportés contrairement au devoir, témoigner de peu d'affection et de peu de soin, que de vous laisser mourir en repos. Mais l'un tourmente vos yeux, l'autre vos oreilles, un troisième votre bouche. Il n'y a ni sens ni membre qu'on vous amène. Vous avez le cœur serré de pitié quand vous entendez les plaintes de vos amis, et peut-être aussi un peu d'irritation à entendre d'autres plaintes feintes et déguisées. Celui qui a toujours eu le goût délicat l'a encore plus quand il se trouve affaibli. Il lui faut, dans une si terrible nécessité, une main douce et adaptée à ses sentiments pour le caresser justement là où il a mal, ou qu'on n'y touche pas du tout. Si nous avons besoin d'une sage-femme pour nous mettre au monde, nous avons bien besoin d'un homme encore plus sage pour nous en faire sortir. Un tel homme, et qu'il soit notre ami, il faudrait payer bien cher pour servir dans de telles circonstances. Je ne suis pas parvenu à cette force hautaine qui se fortifie en soi-même, que rien ne vient aider ni troubler. Je suis d'un niveau inférieur. Je cherche à me cacher comme un lapin dans son terrier, et à me dérober à ce passage, non par crainte, mais par un dessein volontaire. À mon avis, il ne faut pas faire preuve ou trop montrer de fermeté dans cette situation. Pourquoi donc? Mais à ce moment-là, je cesserai d'avoir quelque droit ou intérêt à ma réputation. Je me contenterai d'une mort repliée sur elle-même, tranquille et solitaire. Tout à fait comme moi, convenable à ma vie retirée et intime, à l'inverse de la superstition romaine, où on considérait comme malheureux celui qui mourait sans parler et qui n'avait pas près de lui ses proches pour lui fermer les yeux. J'ai bien assez à faire pour me consoler moi-même sans avoir à consoler les autres, assez de pensées en tête sans avoir besoin que mon entourage m'en fournisse de nouvelles, et assez de sujets de réflexion sans avoir à en emprunter. La société n'a pas de rôle à jouer dans la partie qui se joue au moment de la mort. C'est un acte où il n'y a qu'un seul personnage. Vivons et rions parmi les nôtres, mais mourons en faisant la grimace chez des inconnus. En payant, on peut trouver quelqu'un qui vous tourne la tête et qui vous frotte les pieds, qui ne vous bouscule pas plus que vous ne le voulez, vous présente un visage indifférent, vous laissant réfléchir et vous plaindre à votre guise.